Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, notre semaine consacrée à l'Amérique, ou plus exactement à notre rapport à la culture américaine continue. Et ce matin, on va parler du dernier Lucky Luke qui est sorti cette semaine. Un cowboy dans le coton. Cette fois, l'homme qui tire plus vite que son ombre partage la couverture avec un collègue noir. On les aperçoit tous les deux, main dans la main, chacun tenant un colt, très inquiet, dans un champ de coton. Et plus loin, on aperçoit quelques cagoules du Ku Klux Klan. Certains tenant des torches. Un Lucky Luke bien de son époque, dessiné par HD, d'après un scénario de Jules, notre invité ce matin. Bonjour Jules.
Bonjour.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Un shérif noir dans le Far West, l'alter ego de Lucky Luke dans ce dernier album a bel et bien existé. Son nom, Bass Reeves, premier noir nommé Marshall adjoint à l'ouest du Mississippi. Et on apprend d'ailleurs à la fin de cette aventure de Lucky Luke que 25% des shérifs étaient noirs à l'époque et qu'il y avait d'ailleurs beaucoup d'hispaniques. Donc on est loin, très loin du prototype nourri par Hollywood du cowboy blanc.
Voilà, c'est ça, vous disiez shérif, c'est plutôt cow-boy. C'était un métier de prolétaire, de sous-prolétaire, avec payé $1 par jour. Alors vous imaginez bien que c'était des gens qui pouvaient rien faire d'autre, qui faisaient ce job-là. Donc le John Wayne, c'est vraiment une façon d'avoir repeint en blanc la légende du Far West. Et là, on redonne...
Le white face.
Voilà, c'est ça, on redonne une espèce de réalité à cette histoire des cow-boys noirs, qui est passionnante en fait, mais qui m'a aussi stupéfié. Parce qu'en fait... Quand on a commencé à travailler sur un cow-boy dans le coton, on voulait juste faire voyager Lucky Luke dans un endroit où il n'était jamais allé. C'est ça qui est difficile quand on reprend Lucky Luke. Il y a eu tellement d'albums, plus de 70 ans de création. Il faut faire quelque chose de complètement nouveau et surprenant en restant dans les codes américains. Et la Louisiane, le Bayou, le monde des plantations de coton, des grands planteurs, et ce monde de l'esclavage, on ne l'avait jamais vu.
Peut-être en remontant le Mississippi.
Alors, en remontant le Mississippi, il y avait des noirs qui apparaissaient un petit peu comme des silhouettes, des figurants très stéréotypés et puis qui n'avaient pas vraiment de rôle. Et là, pour la première fois dans l'histoire de toute la série, eh ben en fait, les noirs ont des rôles de premier plan et Lucky Luke affronte cette question. C'était bizarre quand même qu'il traverse l'histoire des États-Unis sans jamais parler de la guerre de sécession, sans jamais parler de ce monde d'après l'abolition de l'esclavage, qui est extrêmement terrible. Et c'était ça qui était difficile, sans doute. Rester une comédie et en même temps être dans l'ADN de la comédie d'action tout public pour les enfants, pour les adultes, ça c'est Lucky Luke. Et en même temps, affronter quelque chose qui est de l'ordre du crime contre l'humanité. Je me suis posé probablement peut-être les mêmes questions qu'un Roberto Benigni quand il faisait sa comédie sur la Shoah avec La vie est belle. Comment ne pas édulcorer? Comment être intègre par rapport à cette histoire, être digne par rapport à cette histoire de mort, de terreur, qui a des échos jusqu'à aujourd'hui, on en parle toute la semaine sur l'antenne, et en même temps, garder cette gaieté. Donc il a fallu trouver plein de stratagèmes, et le personnage que vous évoquez, Bass Reeves, sur cette réelle légende noire de l'Ouest, elle a permis justement de servir de guide à la fois pour nous, le lecteur, et pour Lucky Luke, qui s'aventure dans des terrains vraiment minés.
Je n'en avais jamais entendu parler.
Oui, c'est assez peu connu. Il se trouve qu'aux États-Unis, ça y est, cette figure commence à émerger. La série Watchmen lui a consacré aussi une partie de son travail. Morgan Freeman, l'acteur
film,
et réalisateur, travaille sur un biopic de Bass Reeves. Mais c'est vrai que pour nous, on est resté à cette image du cow-boy. De toute façon, Lucky Luke, c'est notre patrimoine européen et mondial, mais il n'y a pas tellement d'impact aux États-Unis. Il est assez peu connu. Il est connu partout. C'est une star en Iran, en Turquie, dans toute l'Europe. Donc, ce qu'on véhicule des États-Unis dans Lucky Luke, et particulièrement dans Un cow-boy dans le coton, c'est l'image que nous, on entretient avec l'Amérique. Et précisément, c'est passionnant à un moment où justement le mouvement Black Lives Matter, qui existait déjà aux États-Unis, qui est porté à son incandescence dans cette période électorale, et puis avec tous ces drames qui se sont succédés, eh ben Black Lives Matter, on n'en avait jamais autant parlé en Europe, en France. Et on voit bien qu'il y a plein d'échos avec la représentation des Noirs, l'invisibilisation et cette mémoire de l'esclavage qu'on a tous. Parce qu'en fait, les États-Unis, ils sont pas tout seuls sur la planète. C'est vraiment le commerce triangulaire. C'est une triangulation qui continue aujourd'hui encore à faire des échos avec nous. Et donc, Un cow-boy dans le coton, c'est cette aventure-là. en Louisiane, dans les plantations, mais ça parle beaucoup de nous, évidemment, parce que ce cow-boy franco-belge, c'est un peu notre miroir et notre ambassadeur.
On a vraiment l'impression, en lisant cette aventure, que vous aviez deviné que ça allait être le sujet de l'heure, hein, parce que il y a quelques passages où l'actualité ne fait pas seulement que résonner. On a l'impression que c'est presque avec le recul dans le temps, mais aussi le recul avec l'humour que nécessite une série comme Lucky Luke, une manière de parler de tout ce qu'on a vécu depuis la triste affaire de George Floyd.
Oui, c'est souvent, comme souvent avec les dessinateurs d'humour, un petit peu prémonitoire. On a toujours un sixième sens pour sentir l'air du temps, quelque chose qui est en devenir dans la société. Et c'est vrai que cet album, il arrive maintenant, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, de manière presque providentielle. On en a besoin de cet album. Et on en a besoin aussi pour sortir de quelque chose.
Enfin, quand vous dites presque providentielle, vous savez bien, Jules, que ce problème avec les années Trump est revenu dans l'actualité, hélas, de l'Amérique et du reste du monde.
C'est sans doute ce qui m'a donné envie de faire ces recherches et de dénicher finalement ce sujet. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en a besoin de cet album en France? C'est parce qu'on est, et c'est pas seulement sur ce sujet des inégalités raciales, de la représentation des Noirs, de la mémoire de l'esclavage, c'est la société dans l'ensemble est extrêmement fracturée et on voit dans des drames comme l'assassinat islamiste de Samuel Paty, que la société qui devrait faire bloc, en fait, n'est que fragment, n'est que douleur, et c'est vertigineux pour un auteur.
Ou alors qu'elle est terrorisée, accablée.
Et qu'elle se divise, et en fin de compte, les débats sur la déprogrammation d'Autant en emporte le vent, le déboulonnage des statues liées à des personnages ayant prospéré sur la traite négrière, les questions de retitrage des Dix-Petits Nègres, d'Agatha Christie, toutes ces choses-là qui tout d'un coup envahissent notre espace public, nos débats, de manière presque stérile au bout d'un moment, parce que ce sont des légitimités qui s'affrontent et on n'arrive pas vraiment à en sortir. Il y a besoin, et tout le monde le reconnaît ça, d'un discours commun, d'une histoire commune, de quelque chose dans lequel tout le monde se reconnaîtrait avec une forme de pensée positive projetée vers l'avenir. Et c'est un peu l'ambition d'un cow-boy dans le coton, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui, objectivement, réconcilie cette espèce d'esprit national qu'on peut avoir. On a tous ce goût fou pour la bande dessinée. En fait, toutes les générations, tous les milieux sociaux, toutes les communautés ont lu Lucky Luke. Hein, on a été biberonnés à ça. Le fait de s'adresser encore aujourd'hui à tout le monde, c'est une responsabilité monstrueuse pour les auteurs. Et c'est pour ça qu'on s'en empare en traitant ce genre de sujet. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux à faire. Et c'est peut-être les derniers endroits où on peut encore faire s'asseoir tout le monde autour d'une même joie, d'une même excitation et avancer sur des sujets graves.
I love the way she calls my name. I love the way she talks. She's 3 parts wild, 1 part tame. I love the way she walks. Bayou, baby, bayou, my bayou bear. Bayou, baby, bayou, my bayou bear.
Ce n'est pas rien de rappeler que ce Lucky Luke, un cow-boy dans le coton, est tiré à 600 000 exemplaires. C'est considérable. C'est le 79e album de cette série créée par le dessinateur Maurice en 1946, qui a connu son âge d'or, on le sait, quand Goscinny était au scénario. Mais c'est une série, vous l'avez bien rappelé, Jules, c'est une série humoristique qui parodie les westerns et qui, dans son âge d'or, rendait hommage à l'Amérique, parce que on rêvait de l'Amérique. Alors comment rester et dans le registre de l'humour et aborder la question douloureuse de l'esclavage? Dans cet album, c'est vraiment juste à la sortie de la guerre de sécession. Comment aborder le problème de la ségrégation raciale tout en restant dans cet humour typique des aventures de Lucky Luke, avec de la parodie, des clins d'œil, et aussi dans cet hommage du rêve américain qu'on a tous eu, mais qu'on est de moins en moins nombreux à le partager aujourd'hui aussi.
Oui, c'est pour ça que c'était probablement l'album le plus difficile qui m'a été donné de faire, mais aussi celui probablement dont je suis le plus fier à la fin. C'est-à-dire que c'était effectivement très difficile de ne pas minorer, de ne pas édulcorer, de ne pas cacher l'histoire. Et en même temps, Lucky Luke, il y a des codes de cette série, tout public. On montre pas de mort, on montre pas de sang dans Lucky Luke. A fortiori, on n'allait pas montrer, dessiner des scènes de torture, de lynchage, de pendaison. Mais il fallait pas que ce soit absent non plus. Donc en fait, on a trouvé un système où on l'évoque, où finalement Lucky Luke qui arrive comme un touriste en Louisiane, qui sent le parfum des magnolias, qui voit la majestuosité la majesté des paysages autour de lui, est d'abord charmé, puis petit à petit, il découvre ce que c'est que la réalité de cette société esclavagiste, et il est horrifié. Comme nous, les lecteurs, petit à petit. Et donc, ce mythe américain, il a le revers de la médaille, sa face d'ombre. Et on sait très bien que les États-Unis, ils sont construits sur un péché originel de l'extermination des populations autochtones, mais aussi, évidemment, de sa fortune, sa structure a été bâti sur l'esclavage, par ce système de l'esclavage, que ce soit le Nord ou le Sud. C'était une espèce de dialectique. Tous les auteurs qui ont réfléchi sur la question, à commencer par Baldwin, qu'on relit beaucoup aujourd'hui, ont vraiment pointé ça, cette espèce de termite intérieure qui ronge tout le système américain du fait de pas avoir vraiment regardé cette chose-là en face, cette ségrégation raciale qui est vraiment consubstantielle aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et pour en garder un aspect de comédie, de gaieté, de joie, on a affronté tous les problèmes. Mais là où j'ai trouvé en fait la solution, j'étais coincé hein, en tant que scénariste, je me suis dit mais ce sont les Dalton. Les Dalton qui, parce que Lucky Luke a hérité d'une plantation de coton en Louisiane, lui il se retrouve du côté des grands planteurs blancs, il est bien embêté, il est pris au piège. Les Dalton ils se disent on va buter Lucky Luke, enfin leur rêve habituel, et puis récupérer le magot. Donc ils débarquent eux en Louisiane et alors là ils sont complètement paumés. Ils se retrouvent dans le bayou louisianais face aux Cajuns, ils sont sûrs que c'est francophone là du Marais, en fait ce sont des Mexicains. Quand ils se retrouvent face au Ku Klux Klan, ils pensent que c'est une tribu d'Indiens avec des chapeaux pointus. Mais
ou l'art de faire rire avec des sujets très graves. Hein,
voilà, et en fait eux ils sont marrants, ils comprennent rien et c'est un peu une autre facette de nous-mêmes. Parce que nous Européens, bien sûr on aime les États-Unis mais on connaît pas grand-chose finalement. On s'arrête à un certain nombre de clichés et moi pourtant je suis historien de formation, je me suis passionné par ça quoi. Je me suis passionné pour tout ça et j'ai découvert énormément en faisant des recherches toutes ces dimensions de cette société du Sud pleine de faux semblants et ça m'a enthousiasmé. J'espère que c'est ce qui va aussi en plus que tout surprendre les lecteurs.
Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez lu, vous vous êtes documenté, vous avez vu les films de l'époque ou qui a essayé de restituer cette époque?
Oui, parce qu'il y a plein d'images fortes à côté desquelles on ne pouvait pas passer. Évidemment, d'abord le Mississippi, le Delta, c'est Mark Twain. Donc on voit passer Huckleberry Finn et Tom Sawyer qui croisent la route de
Lucky
Luke.
Vous le rendez hommage.
Il y a des scènes entières qui sont des décalques un peu en comédie, d'autant on emporte le vent. Quand Lucky Luke se retrouve invité à une garden party de grands planteurs blancs, eh bien il y a une case qui est un décalque de Scarlett O'Hara entourée de tous ses prétendants avec sa grande robe à crinoline. Bah là c'est pareil, Lucky Luke il est assis et toutes les donzelles blanches comme ça sont toutes les oies blanches sont autour de lui en amouré face au cowboy solitaire.
Charité, pas même si c'est une patate de gratin.
Cette musique-là vous a accompagné, Jules, quand vous étiez en train de travailler le scénario d'un cow-boy dans le coton dessiné par HD et qui vient de sortir.
Oui, cette ambiance, elle est incroyable. Ce sont les Balfa Brothers, c'est un groupe culte de musique cajun. On sent le marais poisseux, les maringouins, hein, c'est les moustiques de Louisiane qui sont là.
Mais je comprends ni le français ni l'anglais, ils chantent en quelle langue ?
Alors ils chantent en français, mais c'est ce français issu du 18e siècle, mais qui est totalement créole, parce que dedans il y a du vocabulaire venu des esclaves, des noirs, il y a du vocabulaire indien, les indiens Houma qui habitaient en Louisiane. Et en fait pour moi, cette chanson créole, là, on croirait même la façon dont ils chantent très haut perché, comme ça, enfin dans le nez, on dirait des griots du golfe de Guinée. Et pourtant, c'est nos cousins canadiens qui ont été déportés au milieu des marais. Donc c'est magnifique.
Capitaine, capitaine, voyage ton flag, galant chez l'autre voisin. Mandez la charité, aux autres venez nous joindre. Pour les autres, vous venez nous joindre, ouais, au grand bon ce soir.
Et votre rêve américain, Jules, il en est où ? Est-ce que l'Amérique vous fait toujours rêver ?
Moi, je fais partie des gens qui ont été nourris consubstantiellement, bien sûr, par la bande dessinée franco-belge, mais aussi par les dessins animés de Tex Avery, les films des Marx Brothers, ces grandes comédies américaines. Donc Hollywood, finalement, ça a été mon école. Et par la suite, tout l'humour américain extraordinaire, Gary Larson, les Simpsons de Matt Groening, les Muppet Show avant tout, même si on remonte à cette préhistoire. Et donc pour moi, ça fait partie de mon regard. De toute façon, depuis le plan Marshall, la planète et suit le tempo et le rythme américain. On le sait, il y avait le volet culturel en fait, où en échange de dollars pour reconstruire l'Europe en miettes après la guerre, il fallait ouvrir toutes les vannes des importations du rêve américain et de la culture. Donc on est tous les enfants de ça.
Il en est où votre rêve américain aujourd'hui, Jules ? Est-ce que les années Trump ont bousculé vos envies d'Amérique, en fait ? Que ce soit de culture américaine, du pays américain ?
Il y a parfois des impulsions qu'on peut avoir. On se dit, oui, j'aimerais bien aller vivre, passer un an, deux ans aux États-Unis. Je l'ai jamais fait dans ma vie. Ça aurait pu être un truc d'étudiante, s'installer à New York ou quoi. Si on ne sait pas si New York est vraiment l'Amérique. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'aller maintenant y voir par moi-même. Est-ce que c'est vraiment un monde parallèle de fake news, de faits parallèles, comme ça, qui est en train de basculer dans une espèce de fascisme zombie ? Ou est-ce que finalement, j'irais cette âme très simple, élémentaire de cœur qu'il peut y avoir en fait dans le rêve américain, dans cette relation très simple que les gens peuvent avoir entre eux, a encore des choses à nous apprendre. Je suis pas un Européen qui toise de haut l'Amérique, mais c'est vrai que en fait, ce goût de la simplicité qui peut être merveilleux dans certaines occasions par rapport au goût de la complexité qui caractérise l'Europe, en ce moment, c'est encore en train de tourner plutôt coton.
Pour revenir à Un cow-boy dans le coton, Jules, je sais que ce troisième Lucky Luke que vous signez, c'était pour répondre à une envie que vous aviez au début de réintégrer toutes ces minorités qui ont fait l'histoire du Far West et qu'on ne voit jamais, ni dans les livres, ni dans les films, ni dans les bandes dessinées. Vous avez commencé par la communauté juive, là ce sont les Noirs d'Amérique. Pourquoi cette envie ?
Je laisse à Lucky Luke le rôle d'être un justicier et un redresseur de tort, mais c'est vrai qu'en tant que scénariste, ça me paraissait très très bizarre qu'une communauté aussi importante que la communauté noire n'ait jamais eu voix au chapitre dans l'aventure de Lucky Luke.
Y compris avec Goscinny, donc.
Pendant tout au long de sa très longue existence, ça n'existait pas. Donc c'est un oubli réparé, probablement. On peut l'expliquer de mille façons. À l'époque, ça ne se faisait pas. Il y a cette dimension dramatique et difficile à traiter en comédie. Je trouve qu'aujourd'hui, on en avait suffisamment besoin pour affronter cette question-là, essayer de trouver, avec malice, je dirais, toutes les façons de mettre ça devant le premier plan avec une vraie histoire. Ça me paraissait très simple, très élémentaire. Et puis, il y avait aussi quelque chose, et je sais que Toufi Kakem, on en a parlé, ouais, il y a des années de ça, il y avait la question de Tintin au Congo. Mm-hmm. Faut-il interdire ? Faut-il mettre des préfaces ? Faut-il laisser en vente libre Tintin au Congo ? C'est un débat qui agite les Européens énormément.
Ouais, et qui reste d'actualité, d'ailleurs.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis Tintin au Congo, dans les grandes bandes dessinées patrimoniales franco-belges, il n'y avait pas de façon d'aborder la question des Noirs, des Blancs, la question raciale, à part Tintin au Congo, qui est un album hautement problématique, avec toute la contextualisation qu'on peut lui donner aujourd'hui. Mais pour un lecteur, un enfant aujourd'hui, c'est très important d'avoir quelque chose d'autre à se mettre sous la dent sur ces questions. Et j'espère que voilà, ce Lucky Luke là, il permettra de tourner d'une certaine façon la page, d'avancer un petit peu vers un avenir un peu moins enténébré.
Vous n'êtes pas allé aux États-Unis pour préparer ce Lucky Luke ?
Non, alors pour ce Lucky Luke, c'était vraiment, je me suis plongé dans les films, je me suis plongé dans la musique, comme on le disait, dans la littérature ancienne, contemporaine, dans les débats aussi qu'il peut y avoir sur toutes ces questions de représentation, de caricature, cette évocation de l'esclavage. Mais la dernière fois que j'étais allé aux États-Unis, c'était pour présenter justement un cow-boy à Paris, qui racontait l'histoire de Lucky Luke qui ramenait la statue de la liberté à New York, avec des planches de notre album qui sont maintenant exposées au musée de la statue de la liberté sur l'île, sur Liberty Island, aux côtés voilà, de tout ce qui est, de toute la production de la culture populaire autour de la statue.
Le prochain Lucky Luke, du coup ?
Alors le prochain Lucky Luke, bah, il sera très Far West. Cette fois, on ne va pas le faire voyager dans des terres exotiques. On reste
dans les
grandes plaines, dans les cactus. Non, c'est pas. Là, on ne va pas aborder systématiquement des thèmes de communauté, de choses comme ça. Là, ça sera complètement autre chose. Mais encore, je pense, ce sera encore un grand sujet qui résonne avec aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas juste se contenter, quand on a des millions de lecteurs comme Lucky Luke, de faire juste du divertissement. On se marre, il y a de l'action, mais on réfléchit.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et ce matin en compagnie de Jules qui a signé donc le scénario de ce dernier Lucky Luke qui vient de sortir, un cow-boy dans le coton. Merci beaucoup Jules d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Marie-Claire Oumabadi. On se retrouve lundi. Passez une excellente journée, un excellent week-end avec France Culture.